We're here at Menards Bag Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint.
Batteries.
Tools.
Toilet paper.
Extension cords. Grocery items.
Hardware for my cabinets.
Snack items. Crackers and some canned good stuff.
Shop vac supplies.
Toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 21 du mois de novembre et nous sommes en 2025. Bienvenue à tout un chacun sur l'épisode 48 du iPod. Nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année et par anticipation, je vous souhaite bonne fête de la gratitude. Ce qu'on appelle ici chez nous Thanksgiving. C'est une période pendant laquelle on montre sa gratitude vis-à-vis de l'existence, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des proches, vis-à-vis de toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont marqué positivement ou même négativement, si l'on veut, la vie, l'année d'une personne. Moi, en ce vendredi, ma gratitude, je la porte vers vous. Vous qui m'écoutez, vous qui avez fait en sorte que le travail que je fais ici ne soit pas vain. Vous, je vous suis reconnaissant, je vous montre ma gratitude. Aujourd'hui, le sujet dont nous allons discuter, eh bien, très ironiquement, il va falloir en parler, puisqu'il s'agit du silence. Le silence est généralement perçu comme le fait de ne pas parler. Rester silencieux, c'est se refuser à l'élocution, la surface du moins. C'est à cela que l'on pense quand on imagine le silence. Mais le silence, juste pour comprendre jusqu'où il s'étend, il faut déjà comprendre ce qu'implique son contraire. Le contraire du silence dans le cas d'une personne qui n'est pas muette justement, eh bien, c'est la parole, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la parole? À quoi sert-elle? Est-ce que nous qui nous en servons chaque jour, est-ce que nous comprenons tous à quoi elle sert? Elle est là, une question extrêmement importante. Alors, selon vous, qu'est-ce que la parole? Eh bien, la parole, c'est d'abord le moyen de communication par excellence d'une personne à une autre. La parole, c'est le canal par lequel l'on communique une pensée. C'est là manifestation que l'on exerce de sa propre pensée intérieure de sorte à la rendre accessible aux autres. Plus loin encore, dans ce même ordre d'idées, la parole, c'est l'élément qui nous permet de choisir laquelle de nos pensées nous décidons de transmettre à l'extérieur de nous. La parole, elle nous quitte, nous, puis elle voyage vers l'oreille d'une autre personne, crée des signaux dans l'esprit de cette personne, puis prend une signification que va maintenant interpréter cette personne sur la base des éléments cognitifs qui sont à sa disposition et en ce moment, il ou elle agira sur la base de ce qui a été compris. Mais qu'est-ce qui fait qu'on comprend la parole? La raison est que la parole, selon qu'elle soit prononcée ou énoncée, revêt un sens circonscrit à un registre qui rassemble des signaux particuliers attachés à des significations particulières en relation à une faction donnée. C'est cela qu'on appelle une langue. La faction est donc un groupe de personnes qui reconnaissent et comprennent ces signaux-là. C'est cela, la parole. Mais la parole, elle n'existe pas par elle seule, n'est-ce pas? Elle ne peut pas exister par elle-même. Elle n'a de sens que parce que son existence est rendue possible par un autre élément qui détermine sa non-existence. On va appeler ici non-parole. Non-parole parce que l'opposé de la parole n'est pas le silence, mais juste l'absence de la parole, plus spécifiquement. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe quand il y a absence de parole? Eh bien, la représentation vocale devient inexistante. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que, suivant le principe physique que nous connaissons tous, rien ne se perd. Alors, le parler, l'énonciation de la pensée devient un phénomène qui est, dès lors, redirigé vers l'intérieur de soi. C'est en ce moment qu'on parle de dialogue intérieur. Parce que soudain, on se rend compte qu'on se parle et se répond à soi-même. Le dialogue intérieur est alors le résultat de la suppression de l'expression vocale, représentée à l'esprit de l'autrui quand nous le permettons. Le dialogue interne, on ne le remarque avec clarté que quand on arrête la parole. La raison est que la parole, je m'excuse auprès des muets, eh bien, la parole, disais-je, est un mécanisme automatique très complexe qui implique le système neurologique et le système physiologique. Le système neurologique comprend à la fois la naissance de la pensée que l'on désire exprimer et le processus de transmission de la pensée vers les terminaisons qui permettent que les éléments physiologiques impliqués dans l'expression prennent le relais. Ce système, en tant qu'il est automatique, se produit sans pratiquement aucun contrôle conscient. Quand on a envie de parler, on parle, à certaines exceptions près, comme quand on ne comprend pas bien la langue dans laquelle on veut parler. Donc, sans que ces exceptions-là soient effectives, eh bien, on n'attend pas que la pensée se forme. On parle en même temps que la pensée se forme. Ainsi, on ne prend généralement pas le temps de mûrir ou de dorer le contenu généré par le système cognitif. En ce moment, on déblatère et les paroles qu'on prononce sont justes à l'égal de notre manque total de contenu. L'autre alternative est de se contenir et de permettre aux pensées de se bonifier avant de les extérioriser. Et c'est en ce moment que le silence entre en ligne de compte. Ici, le silence n'est pas juste l'absence de parole. Rappelons-nous qu'à la base, le contraire de la parole n'est même pas le silence. La parole participe à la suppression du silence, mais elle ne la fait pas à elle seule. Le silence, c'est beaucoup plus un choix, une décision à laquelle l'on décide, excusez-moi la tautologie, de s'assujettir. Il y a un dicton populaire qui dit que la parole est d'argent alors que le silence est d'or. Ce dicton tient sa source même de la connaissance de la valeur de la parole et surtout de la valeur qu'offre le silence en lieu et place de la parole. Pour une personne sage, Un mot est puissant. En cela que, comme nous l'avons dit plus tôt, chaque parole que prononce une personne résonne différemment dans la tête de celui ou de celle qui l'entend. Et ceci dépendamment des expériences qu'elle a eues à faire par le passé et des expériences qu'elle peut attacher aux paroles qu'elle entend. Chacun interprète les choses de la manière qui lui permet le plus d'esquiver ce qu'en psychologie on appelle la dissonance cognitive. Cependant, si l'on peut quantifier la valeur de la parole, on ne peut pas correctement quantifier celle du silence. Mais on peut quand même la qualifier, c'est-à-dire y attribuer de la qualité. Cette qualification est possible non pas uniquement grâce à ce que le silence peut produire, mais surtout à ce qu'il peut éviter. En premier lieu, quand on pense au silence, on pense à la restriction d'une liberté d'expression. Ici, nous ne parlons pas de liberté d'expression dans le sens moderne de la chose, comme dans la démocratie, mais dans un contexte plus classique, plus littéral. La restriction de la liberté d'expression, c'est littéralement le fait que l'on se fasse ou que l'on se retrouve dans une condition où on est tenu de pratiquer le silence, c'est-à-dire l'absence de parole dans ce cas-ci. En deuxième lieu, quand on pense au silence, on pense au choix de s'accoutumer à une existence silencieuse, une existence dans laquelle il n'y a pas juste le silence en tant que restriction d'expression, mais aussi en tant que mode de vie générale. Il y a quelques années, le très célèbre acteur et comédien Eddie Murphy est apparu dans un film qui a été appelé « A Thousand Words ». Il s'agit d'un agent littéraire à qui la vie a joué un tour pour lui apprendre la valeur de la parole et par conséquent l'importance du silence. Un matin, un arbre est apparu dans son jardin. Cet arbre est constitué de 1000 feuilles exactement. À chaque fois qu'il dit un mot, une feuille tombe de l'arbre. Au début, il ne croyait pas à la chose, jusqu'à ce qu'à un moment, il se soit senti mal parce que l'arbre devenait de plus en plus vide. Qu'il n'y ait plus de feuilles sur l'arbre correspondrait à la mort du personnage de Jack, joué par Eddie Murphy. À ce moment, il a commencé par se limiter dans ses paroles. Alors, quand on se limite dans les paroles, quand une personne se limite dans ses paroles, cette personne commence à identifier plus de moyens. D'accord, plus de méthodes.
We're here at Menards Bank Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint,
batteries,
tools,
toilet paper,
extension cords, grocery items,
hardware for my cabinets,
snack items, crackers, and some canned goods stuff.
Shop vac supplies,
toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
S'exprimer autrement que par les paroles. Quand une personne commence à ne plus parler, cette personne commence inversement à s'exprimer d'une manière qui n'a plus besoin de paroles. Peut-être par la gestuelle. Peut-être qu'à ce moment, cette personne comprend que même la gestuelle n'est pas importante parce qu'elle peut ne pas parler du tout. Elle peut ne pas signifier du tout. Elle peut ne pas s'exprimer du tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les choses qu'on pensait être nécessaires à dire deviennent plus rares. On parle moins. En ce moment, le système de filtrage qu'il y a entre le système cognitif et les organes qui permettent l'élocution, eh bien, ce système-là commence à filtrer sérieusement. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus dire n'importe quoi. Parce que maintenant, vous réfléchissez beaucoup plus. Parce que quand vous n'extériorisez pas ce que vous pensez, eh bien, ce que vous pensez se raffine. C'est le premier point. Quand vous n'extériorisez pas votre pensée se raffine. Parce que votre cerveau est comme une usine. Une usine dans laquelle il y a plusieurs postes où des gens travaillent à la chaîne. C'est-à-dire, vos neurones travaillent à la chaîne. Et quand vous ne vous précipitez pas pour sortir le contenu de votre usine, eh bien, ce contenu va repasser chez chaque travailleur à chaque poste pour se raffiner. Ça, c'est le premier bénéfice du silence. Le deuxième bénéfice du silence est que, rappelez-vous que nous avions parlé par le passé du registre akashique. D'accord ? Le registre akashique, c'est le synonyme qu'on donne au subconscient commun. D'accord ? Et nous avons dit, lors de l'épisode de la méditation, nous avions dit que le procédé de la méditation implique que l'on fasse silence, c'est-à-dire le silence extérieur qui signifie que l'on ne doit pas parler, d'accord, et le silence intérieur qui signifie que l'on ne doit pas penser à proprement parler, d'accord. Le silence, dans ce cas-ci, va un peu plus loin que la signification qu'on y donne au quotidien. Le silence, ici, c'est l'abandon au néant. Quand vous refusez de penser, ou tout au moins, quand vous vous limitez dans l'activité de penser, votre cerveau, votre esprit se libère. Quand vous ne pensez pas, votre esprit fait ouverture à ce qu'on pourrait appeler des réflexions divines. D'accord ? Des réflexions qui ne sont pas les vôtres. Des réflexions qui, à la base, ne vous appartiennent pas. Dans l'épisode d'Adam et Ève, on a vaguement réfléchi par rapport à « Et si la connaissance était inscrite en Adam et Ève ?» Et si la pomme était juste un fruit? Et si croquer dans la pomme n'avait rien fait du tout à Adam et Ève? Et si le fait qu'ils aient voulu devenir conscients, c'est-à-dire connaisseurs, était la raison pour laquelle ils sont devenus connaisseurs? Nous avons discuté de cette probabilité-là et nous avons trouvé ça logique. Mais de quelle manière est-ce qu'on peut se révéler à soi-même une chose qui pourrait potentiellement être en nous, mais qui ne nous appartient pas dans le moment? Parce que toutes les choses qu'on peut penser, eh bien, toutes les autres personnes qui sont autour de soi peuvent y penser. C'est pour cette raison qu'on appelle ça le subconscient collectif. Parce que toutes les informations qui étaient disponibles à Nikola Tesla, à Einstein, à Machiavelli, à tous les grands savants, que ce soit des sentiments, des réflexions, toutes ces informations-là sont disponibles à nous tous. Tous autant que nous sommes. À moi, à vous qui m'écoutez, à ceux qui ne m'écoutent pas, à toutes les personnes qui ont un cerveau. Il faut juste entrer dans le procédé qui permet au soi d'accueillir ces informations-là. Et ce procédé implique la réminiscence, c'est-à-dire le souvenir de quelque chose qu'on sait et qu'on a oublié. Parce que toutes les choses que nous apprenons, généralement, nous les savons. C'est juste que nous avons oublié que nous connaissons ces choses-là. Donc, apprendre, c'est entrer dans un procédé de réminiscence. Mais ce procédé de réminiscence ne peut pas être effectif tant qu'on n'y a pas inclus le silence. Comme je le disais plus tôt, le silence, c'est un procédé d'abandon au néant. Quand vous restez silencieux, vous avez accompli la moitié de ce que c'est que le vrai silence, c'est-à-dire ne pas parler. C'est la première moitié de ce que c'est que le vrai silence. La deuxième moitié, c'est se vider l'esprit, s'abandonner au néant. Et quand vous abandonnez votre esprit au néant, eh bien, vous videz de ce qui n'a pas lieu d'être dans votre esprit. Et vous ouvrez votre cœur, votre âme, votre esprit à ce qui a le droit d'y être. C'est ce que j'aime appeler le spiritualisme. Faites attention, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Le spiritualisme, en ce sens que c'est une combinaison de spiritualité et d'intellectualité. Ce n'est pas simplement votre esprit qui est ouvert à la connaissance. C'est votre âme. C'est votre âme qui est ouverte à la connaissance. Et permettre à votre âme d'accéder à la connaissance, vous ne pouvez pas le faire uniquement en lisant des livres. Parce que les livres que vous lisez, toutes les choses, toutes les connaissances que vous ingurgitez, c'est juste de la réminiscence. Parce que ces connaissances-là viennent d'un endroit auquel vous avez accès. Dieu ne dit pas que vous allez devenir un génie demain matin si vous pratiquez le silence. Je ne dis pas que vous allez devenir Einstein si vous pratiquez le silence, simplement, non. Il y a beaucoup de choses à faire pour atteindre ce niveau-là, mais tout au moins, vous devez faire entrer dans ce procédé-là, entrer dans cette procédure-là pour permettre à votre âme, à votre esprit de se mettre dans la disposition nécessaire pour accueillir le savoir, pour accueillir la connaissance. Le silence, c'est ce qui vous rend sourd à l'impossibilité des différentes perspectives, des différentes possibilités de malléabilité qui correspondent à la matière. Parce que si vous ne pouvez pas être silencieux, c'est que vous ne pouvez pas accueillir la vérité. Pratiquer le silence, c'est se mettre en condition sur la même longueur d'onde que l'univers. Quand vous pratiquez le silence, vous ne dites pas des choses que vous ne devez pas dire. Quand vous pratiquez le silence, vous réfléchissez involontairement. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour que des choses intelligentes apparaissent à votre esprit. Et ces choses intelligentes-là, quand elles vont apparaître à votre esprit, eh bien, elles n'auront plus l'air aussi intelligentes. Elles vont paraître parfaitement logiques. Et en ce moment, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je n'y ai jamais pensé auparavant? Pourquoi est-ce que je trouvais ça aussi invraisemblable? Le silence, c'est l'orgueil du muet. Parce que le muet est conditionné naturellement à être silencieux. Le muet, quand il comprend la force qu'il détient dans le silence, eh bien, il n'est plus fâché d'être un muet parce que maintenant, il peut faire des choses que la personne qui a la parole ne peut pas faire. Parce que le muet se rendra bien vite compte de la chance qu'il a d'être muet s'il est objectif. Mais celui qui a la parole, il ne saura jamais si on ne lui dit pas ce que ça fait d'être silencieux. Gardez le silence de temps en temps. Personnellement, il m'arrive de choisir des jours où je ne parle pas du tout. Je ne parle à personne. Des jours où je maintiens le silence. Du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. C'est thérapeutique. Alors, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, pratiquez le silence parfois. Ça fait du bien. Ça vous permet de réfléchir plus adroitement. Moi, c'est Ice. Et ici, c'est le Ice Pod. Je vous revois la semaine prochaine. À plus. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, si vous avez apprécié cet épisode ou n'importe lequel des autres que j'ai pu mettre à votre disposition jusque-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à me faire un don de n'importe quelle nature qu'il sera. Je suis disposé à le recevoir. Nous avons besoin de tout le support que nous pouvons avoir pour faire grandir cette chose que nous sommes en train de faire ici. Bientôt, nous aurons une page Patreon sur laquelle vous pourrez avoir accès à des épisodes plus exclusifs. Nous aurons aussi une page YouTube sur laquelle vous pourrez voir ma vilaine face. Et bientôt, il y aura une page Instagram sur laquelle nous pourrons interagir de façon moins figée. Alors, d'ici là,